To me, coming from California, as a Californian, there is no space on the northeast coast. It, to me, seemed, when I arrived in New York, it was like coming to Paris. I thought this was the most intensely urban, small space. I'd crossed the continent, and then, of course, in California, you face the Pacific, and you're very aware there of mountains and the sea. And I think any American, and I'm very typical because I was born in the South, and I grew up in California, and I immigrated to New York. I'm very aware of a continent as a whole. I suppose space really can be thought of in terms of continuity. And there, it's an old-fashioned question, really, because I think the world is all becoming alike. And there's no continuity in America, and there isn't any anywhere, really. I live in New York because New York is not really America. It's not a very good example.
La baleine n'a pas place dans les professions libérales. Il brillait maintenant comme un os blanchi. Le membre vivante, voilà ce qui fait vivante l'insulte. Elle transforma les mâchoires de la mort en chaise longue. L'injure a la dimension d'un petit rond dont les trous $1. L'aigle se détache, s'agrandit et vole. Un bruissellement d'ailes donne une main blanche au cauchemar. Et l'aigle se pose sur une branche qui sortait du tableau de Rauschenberg. Il reste là, en attendant sa liquidation. Une voix psalmodée des citations sur le USA qui précède la découverte de l'Amérique. Livre 1, une folio. Chapitre 3, le dos en rasoir. Illettré, il répondit. Mais j'ai traversé à la nage les bibliothèques. Lévi, Lévia, attends, Léviathan, franche et déposée, le cache à l'eau. Le grand cache à l'eau règne désormais.
Je pense que le féminisme américain est un phénomène encore extrêmement puissant, contrairement à certains déclins qu'on peut constater en France. C'est un phénomène puissant sur un plan revendicatif qui continue et qui s'impose et qui obtient de plus en plus de satisfaction. Revendications d'augmentation de salaire, de poste, d'avantages pour les femmes, etc. Mais il est important aussi sur un plan culturel, et là je crois que nous ne connaissons pas cette dimension suffisamment, en tout cas nous ne l'avons pas suffisamment développée en France. Les femmes américaines se posent des questions culturelles. Elles veulent savoir quel est leur rapport à la pensée, à l'histoire de la pensée et à la culture. Il y a une revue récente qui s'appelle Science, qui est une revue des femmes dans la culture et qui se consacre essentiellement à la publication de travaux de femmes essayant de cerner la contribution féminine dans la culture. Ceci me paraît très intéressant à propager et à encourager. Ces travaux vont évidemment dans des directions différentes. Certaines vont jusqu'à se demander est-ce que le développement de la science, et notamment des sciences positives qui paraissent neutres comme les mathématiques n'ont pas valorisé une tendance masculine de la pensée, et en quoi consiste, cette fois sur le plan psychanalytique, le refoulement d'une certaine féminité dans le discours et dans la pensée. C'est par là que ce féminisme-là, culturel, intellectuel, rejoint des préoccupations françaises issues du lacanisme, par exemple. Et puis, il y a évidemment la production culturelle courante des femmes, qui est un phénomène très curieux également, qui est moins visible en France, peut-être pour des raisons économiques, on n'a pas les moyens de le propager, mais qui est ici très envahissant et parfois stimulant, parfois déprimant. Je pense entre autres aux films qui ont été projetés au Festival Féminin. Ce sont des films de femmes cinéastes reconnues, mais aussi d'autres qui ont fait des courts-métrages dans lesquels elles élaborent leur rapport à leur mère, leur propre histoire. Et on a l'impression de voir s'instituer une imagination de matriarcat comme dominant cette couche de la population féminine. En même temps, et sur un autre niveau beaucoup plus populaire, j'ai l'impression qu'on peut dire que le héros principal, qui pendant des siècles et des millénaires a été le héros positif mâle, l'aventurier, personnage picaresque, etc., devient la femme. Et j'en donne comme preuve un phénomène spectaculaire des médias, qui est le feuilleton de Mary Hartman, qui passe presque tous les soirs à la télévision américaine et qui a comme personnage principal une femme dont toute l'Amérique connaît les aventures. Elle est suivie partout et elle condense la psychologie de l'américaine, mais on peut dire de l'américain, sur le plan de la vie privée, des angoisses personnelles, de la vie familiale, le rapport à la consommation, le rapport même aux phénomènes politiques et sociaux, etc. J'ai trouvé cette exaltation du rôle féminin, qui est d'ailleurs une exaltation ambiguë, car les groupes féminins sont divisés à cet égard. Certains trouvent que c'est une mauvaise chose de donner cette image de la femme, car c'est une image négative. Et au contraire, il faut présenter la femme sous des traits positifs, il faut donner un héros positif. D'autres trouvent que c'est un bon élément parce que ça présente la femme du système tel que la donne l'actualité, et par conséquent, ça incite les gens à réagir. Donc c'est un phénomène quand même ambigu. N'empêche que c'est là-dessus que se cristallise l'imaginaire de tout un peuple. Et je pensais qu'on trouve, sous des traits tout à fait différents, la même exaltation de la féminité comme métaphore de la population en Chine. J'étais frappée de voir que tous les films que nous avons vus en Chine étaient des films à héros principal femme, évidemment avec un autre héroïsme, avec tous les traits de la pensée maoïste valorisée dont est doté ce personnage. Ça n'a rien à voir avec le côté petit bourgeois de ce personnage principal qu'est Mary Hartman. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une métaphorisation de l'essence nationale, si on peut dire, à travers un être féminin, un personnage féminin. Et c'est assez significatif pour l'évolution de toute une culture, de toute une population, pour une mentalité.
On a le sentiment que l'espace, on ne peut pas l'avoir. Autrement dit, que quelle que soit la dimension de ce qu'on appelle la propriété, il y a la propriété privée, bien entendu, partout, l'espace est comme en réserve en lui-même ou en retrait. Au fond, il est l'inaliénable, l'incessible, il est comme... On a le sentiment qu'il est en réserve et en attente, et que par conséquent, il y a effectivement à le reparcourir sans cesse, dans des tentatives d'appropriation, mais qui sont toutes, au fond, vouées à un échec qu'elles savent bien, comme un échec de prise de possession, d'appropriation d'un espace, mais qui se retire, qui se réserve, quelle que soit la pollution, comme on dit aujourd'hui, ou les griffures humaines sur cette terre. Il y a là une ressource extraordinaire d'espace. Et ça, c'est un des aspects, si j'arrivais à faire le compte systématique des grands moments d'une expérience américaine, qui passerait évidemment aussi par qu'est-ce que c'est que l'expérience du lien social, la vie sur le campus quand on est enseignant,
le voisinage américain et un tas d'autres choses. Ce serait une des premières à marquer l'espace américain. Pas dans la tête, ça veut dire dans l'expérience de lire ou d'écrire, un rapport du genre de celui que j'aurais avec la littérature française ou européenne, c'est-à-dire des différences très précises de génération, d'une chronologie, hein, et une cartographie font des expériences successives des poètes américains eux-mêmes. Alors, j'ai un rapport de lecture et de traduction provoqué par les occasions. Exemple, la tentative faite par cette petite revue de poésie que j'avais imaginée il y a des années de traduire c'était très ambitieux, de traduire le Patterson, Carlos Williams, de traduire ensemble. Ah bon. Évidemment, pourquoi le Patterson? Parce qu'on est toujours dans les mêmes problèmes, c'est-à-dire le problème du syncrétisme ou de l'éclectisme, c'est-à-dire le problème d'un grand poème qui rassemble, qui met ensemble le colloquial, le journal, les conversations, et qui donc forme une espèce d'objet multiple, en même temps d'objet réduit, de micro-objet, donc de symbole, si l'on veut, d'un espace en invention, d'un espace en formation, un espace au fond, comme si on était toujours reporté au moment de la formation du langage des hommes dans leur rapport entre eux et aux choses. Bon, alors le Patterson nous fascinait. Comme un de ces poèmes, peut-on les appeler, au fond, des espèces de microcosmogénèse, ces grands poèmes américains. En même temps, c'était pour nous l'occasion de nous associer avec deux Américains et deux Français pour essayer de traduire, c'est de faire venir cette œuvre-là. On a échoué, pourquoi? Eh bien, parce que les difficultés de la traduction ont constitué un obstacle que pour le moment, disons, on n'a pas surmonté, surtout à cause de tout ce que Carlos Williams met dans ce poème ou dans ce livre de langage qui est, disons, comme des espèces d'idiolectes ou d'argot d'immigrés récents. Alors, c'est très difficile, il faut vraiment trouver des gens qui entendent certaines de ces expressions. C'est, par exemple, la manière dont les Hongrois, au début du siècle, parlaient dans la région de New York. Des choses comme ceci. Bon. Alors, j'ai aussi traduit quelques poèmes de Robert Duncan, qui maintenant, comme on le sait, sur la côte ouest. Mais justement, pour moi, par exemple, il n'y a pas une différence essentielle dans mon expérience, entre l'ouest et l'est, alors que chacun sait que c'est une polarité importante pour la poésie américaine. J'ai aussi eu des rapports avec ce qui s'appelle, ou prétend s'appeler, l'école de New York. En fait, ça veut dire des rapports d'amitié et de traduction avec Kenneth Scott et plus lointainement avec John Ashbery.
D'abord, le pays américain, quoi qu'il ait ses parties pittoresques, le paysage plutôt n'a pas grand-chose à offrir à l'esprit, à la sensibilité, à mon avis. C'est un espace assez neutre et inintéressant pour un touriste, mais pour un poète, c'est tout autre chose. Il y a d'ailleurs plusieurs pays aux États-Unis, la Californie est presque aussi différente New York, que la Pologne est différente du Portugal en Europe, mais quand même tous les deux se trouvent en Europe. Enfin, comme je vous disais, dans l'état de New York, mais très loin de la ville de New York, et la plupart des gens dans ce village n'étaient jamais allés à New York City et n'avaient pas envie d'y aller d'ailleurs. Ils détestent l'idée de New York. Et je dis ça pour vous donner une idée du contraste entre les pays même qui se situent assez proches l'un de l'autre en Amérique. L'espace de New York est une chose qui paraît derrière la peinture new-yorkaise. Toutes les rues sont à l'angle droit. On regarde le ciel souvent puisque les lignes rectilinéaires des immeubles poussent vers le ciel. Il n'y a pas le côté gentil et poétique du ciel de l'île de France, par exemple, mais qui est très dur et net. Et aussi, on a le sens toujours d'être tout près de l'océan Atlantique qui est à côté des espaces banaux et mathématiques de New York. Il y a un autre espace qui l'entoure dont on ne sait à peu près rien. Et la lumière semble arriver directement de l'océan ici. C'est une lumière assez brutale, mais fraîche aussi. Peut-être que ce n'est pas un paysage qui a été célébré autant que le paysage de la France, par exemple, dans la littérature, dans la peinture, même dans la musique. C'est un pays qui était encore inculte, et c'est ça surtout qui a poussé tellement d'écrivains et d'artistes américains d'aller en Europe pour passer un stage, pour savourer un pays qui était pour eux, mais peut-être pas pour vous, un pays qui se raccordait avec le sentiment de la littérature. Il y a évidemment la littérature américaine, mais pour nous, cette littérature reste toujours à faire, à part quelques écrivains classiques américains. On a toujours l'impression que la poésie se fait encore, qu'elle est en train de se faire et qu'elle n'est pas encore faite.
Denise Green, l'espace de la peinture.
L'espace américain, moi, ce que je sens, c'est que les choses se groupent en masse. Donc, l'espace, on ne l'aperçoit pas. En tout cas, l'espace, c'est une chose personnelle. C'est une idée. Je ne pense pas à l'espace. L'espace n'existe pas. Ce que je cherche, c'est de faire une image où je retrouve cette sensation, cette idée. L'espace est remplacé par la matière. C'est la matière colorée, peut-être. Et en tout cas, c'est la masse qui compte. Ce n'est pas l'espace, même ce n'est pas la lumière. Qu'est-ce que c'est la lumière? Ça n'existe pas. Mais ce qui existe, c'est la couleur. Et ça doit être la couleur qui a un sens. Et il faut trouver une couleur qui va avec un état d'esprit. Et chaque tableau représente un état d'esprit.
Dans l'université américaine, une énorme croyance au savoir, à l'autorité et à une hiérarchie des valeurs aussi bien universitaires que rationnelles, choses qui ont été mises en cause pendant les mutations étudiantes de 68, aussi bien en France qu'ici, mais qui sont actuellement presque intactes. Ceci dit, je pense que l'expérience américaine de vivre en Amérique et d'enseigner en Amérique est passionnante pour quelqu'un qui vient d'Europe, pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous nous trouvons ici dans un espace polytopique qui est pour moi une libération de l'enclos se constituant très rapidement en France et donnant à l'Europe un aspect provincial à cause de cette logique qui consiste à constituer des milieux, des chapelles et des unités dogmatiques. Mais aussi parce qu'on voit ici des éléments qui, d'une part, vont être transportés en Europe et bien de plus en plus. C'est la fameuse américanisation, nous allons en subir les coups. Et d'autre part, on voit des éléments qui d'Europe viennent ici. Autrement dit, on se rend compte de la nécessité que les Américains ont de l'emprunt américain. J'étais frappée de constater que ce qui est pour moi la partie des intellectuels la plus curieuse, la plus lucide et la plus inquiète, est très intéressée par le développement des courants de pensée et d'esthétique en Europe. Nous subissons en Europe les contre-coups de la culture de masse, de cette polytopie dont je parlais au début américaine, et l'Amérique a besoin de l'approfondissement, je dirais analytique, intrapersonnel, de cette avancée au bout de la nuit de la pensée que poursuit l'intellectuel européen. Et c'est ce croisement que j'essaie de vivre en restant ici. Contrairement à cette propagation de la rationalité, de la croyance au savoir, à l'autorité, etc., qu'on trouve dans l'université, à cause de cette rencontre dont je viens de parler, je me sens plutôt en état de désir d'écriture. Ça fait écrire. L'Europe fait penser, mais Amérique fait écrire, ou en tout cas fait appel à une expérience transverbale. D'ailleurs, ses meilleurs arts sont des arts transverbaux. Je crois que ce qu'il y a de plus intéressant actuellement en Amérique, c'est la peinture, le théâtre, la danse. Moins ce qui se verbalise. Ils ont besoin de notre verbe. Nous avons besoin de leur espace, de leur corporité éclatée.
Oh, my name, it ain't nothing. My age, it means less. The country I come from is called the Midwest. I was taught and brought up there, the laws to abide, and that the land that I live in has God on its side. Oh, the history books tell it, they tell it so well. The cavalry's charged, the Indians fell. The cavalry's charged, the Indians died. Oh, the country was young with God on its side.
Il faudrait remonter assez loin dans le problème et voir poser le problème du rapport de l'anglais, l'anglais américain, de la langue avec la nôtre. On peut, comme vous savez, en parler en termes d'agression, de pression constante, ou non. Et là, il y a une chose qui me frappe aujourd'hui, c'est comment, et là je prends les choses par le mauvais côté, c'est comment, à partir de l'infiltration non secrète, mais l'agression de nos discours, et peu à peu de notre langue, si l'on veut, par des américanismes ou anglicismes, il pourrait arriver que certains écrivent ce que je pourrais appeler tout à coup une pigeon poetry, Il y a quelque chose de tellement... disons, il y a une, on sent dans certains poèmes de jeunes types aujourd'hui une fascination pour les effets de vitesse, l'effet de la manière paratactique de la langue anglaise qui a l'air de faire passer le message beaucoup plus vite. On pourrait même parler au fond de l'insubordination de la langue anglaise. Je veux dire le fait qu'il puisse ne pas y avoir de subordination. Les mots, les substantifs ou les verbaux, ou un à côté des autres, faisant phrase avec moins de subordination ou sans subordination. D'où l'insubordination dans notre poésie par une espèce de mimique du phrastique américain. Cette influence peut provoquer une espèce de diminution, de risque de facilité, de dégradation, et que parce qu'on a mis quelques mots, dont quelques-uns en anglais les uns à côté des autres, on pense à être dans le poétique comme Ezra Pound, alors que si c'est l'occasion d'un... ou Cummings, enfin si vous voulez, tandis que si c'est pour nous l'occasion d'un effort dans la langue, non pas d'une insubordination plate, mais justement de chercher des effets de vitesse, d'éclectisme, de rapprochement, alors c'est très intéressant.
J'aime tant l'Amérique que je suis content qu'il y en a deux.
Il y avait une fois un Indien marié et perdu plusieurs fils d'adolescents, à l'exception du dernier-né qui s'appelait Azaré. Un jour, cet Indien était à la chasse. Les frères.
Bernard Noël.
Un poème. À quoi tient un poème? Les mêmes mots, et pourtant la langue ne les articule pas comme ailleurs. On dirait que tout y est pris à la racine. Dans ce qui finit, quelque chose commence. La langue a bien dû commencer un jour. Après quoi? Le poème s'en souvient, et de son début, et il traverse sa propre fin. Il y a là les premiers mots de l'animal, en même temps que le dernier mot de l'humain. Cette coupe dans le temps, dans son épaisseur, coupe mouvante, vibrante, elle est particulièrement perceptible dans la terre vaine. Peut-être parce qu'il s'agit du premier poème qui s'installe justement dans la coupure. Son battement, sa pulsation, au lieu de la décrire. Désormais, la poésie sera le vif, la chose même. La Terre vaine a été publiée en 1922 par Thomas Stern Eliot. Le mot « veine » traduit approximativement le mot anglais « waste », qui désigne une terre dévastée, stérile. La terre vaine, c'est aussi la langue ravagée, qui ne peut plus faire croître aucune foi, aucune communication. Mais un poème n'est jamais une information qu'un résumé pourrait réduire. Eliot lui-même a toutefois donné quelques indications sur l'arrière-plan mythologique du poème, où se croisent des allusions au roi Arthur, à Tristan et Iseut, à la légende du Graal, ainsi qu'au mythe recensé par Fraser dans le Rameau d'or. Mais tout cela, et les citations en langue étrangère, et les références culturelles, tout cela est fondu, emporté dans le mouvement du poème, avec la même force élémentaire que le feu ou l'eau, qui sont les référents de certains de ces chants. des voix parlent, se croisent. Mais ces voix sont comme l'excès d'elles-mêmes, en ce sens qu'elles sont hors bouche. Elles sont la voix des noyés dans le temps. Elles inscrivent, non pas de la présence, mais le bruissement d'un effacement. Elles ne sont pas posées. Elles vont et viennent, selon le mouvement de ce qui battait déjà avant toute langue, et qui survivra à toute langue. Mais, dans la mesure où elles sont dans ce mouvement, elles nous parlent d'un lieu intérieur à tous les naufrages. Un lieu qui est peut-être l'envers de la langue, un envers sans lequel la langue ne serait pas complète, tout comme la parole n'existe qu'avec le silence. Nous descendons le fleuve et voici qu'il prend feu. Et de cet impossible surgit cette faculté de renversement qui nous met la nuque en arrière et le corps debout, le visage fendu, la bouche ouverte. Le poème adhère en nous à cette verticalité qui est le commencement. Et quelque chose nous pousse à travers lui à remettre debout ce souvenir d'avenir que le temps use, sans oubli, interminablement.
The Wasteland.
La terre vaine.
One. The burial of the dead.
L'enterrement des morts.
April is the cruelest month. Breathing lilacs of the dead land.
Avril est le plus cruel des mois.
Il engendre des lilas qui jaillissent de la terre morte.
Il mêle souvenance et désir. Il réveille, par ses pluies de printemps, les racines inertes. L'hiver nous teint au chaud, de sa neige oublieuse couvrant la terre, entretenant de tubercules secs une petite vie.
L'été nous surprit, porté par l'averse sur le Starnberger See. Nous fîmes halte sous les portiques et poussâmes l'éclaircie venue dans le Hofgarten, et puis nous prîmes du café et nous causâmes. Bin gar keine Russin, stamm aus Litauen, echt Deutsch.
Et lorsque nous étions enfants, en visite chez l'archiduc, mon cousin, il m'amena sur son traîneau et je pris peur. Et nous voilà partis. Dans les montagnes, c'est là qu'on se sent libre. Je lis, presque toute la nuit. Et l'hiver, je gagne le sud. Quelle racine s'agrippe, quelle branche croisse parmi ces rocailleux débris. Ô fils de l'homme,
you cannot say or guess, for you know only a heap of broken image. Where the sun beats.
L'arbre mort n'offre aucun abri, la sauterelle aucun répit, la roche sèche aucun bruit d'eau. Point d'ombre, si ce n'est là-dessous ce rocher rouge.
Come in.
Viens t'abriter à l'ombre de ce rocher rouge, et je te montrerai quelque chose qui n'est ni ton ombre au matin marchant derrière toi, ni ton ombre le soir surgit à ta rencontre. Je te montrerai ton effroi dans une poignée de poussière.
Juste une année depuis tes premières hyacinthes. On m'avait surnommée la fille aux hyacinthes.
Pourtant, le soir que nous rentrâmes si tard du jardin des hyacinthes, toi, les bras pleins, et les cheveux mouillés, je ne pouvais rien dire. Et mes yeux se voilaient, et je n'étais ni mort, ni vif. Et je ne savais rien. Je regardais au cœur de la lumière, du silence.
Öde und leer, das Meer.
Madame Sosostris, fameuse pythonisse, avait un mauvais rhume, encore qu'on la tienne pour la femme la plus experte de l'Europe, avec un méchant jeu de cartes. Voici,
dit-elle,
votre carte, le marin phénicien noyé.
These are pearls that wash his eyes.
Regarde, voici Belladonna, la dame des récifs, la dame des passes critiques. Voici l'homme au triple bâton, voici la roue, voici le marchand à un œil. Et cette carte vide, c'est quelque chose qu'il porte sur le dos mais qu'il m'est interdit de voir. Je ne trouve pas le pendu. Gardez-vous de la mort par noyade. Je vois comme des foules et qui tournent en rond. Merci. Quand vous verrez la chère Miss Equiton, dites-lui de ma part que je lui porterai l'horoscope moi-même. Il faut être si prudent par le temps qui court.
Unreal City.
Cité fantôme, sous le fauve brouillard d'une aurore hivernale. La foule s'écoulait sur le pont de Londres, tant de gens. Qui eût dit que la mort eût défait tant de gens? Des soupirs s'exhalaient, espacés et rapides, et chacun fixait son regard devant ses pas. S'écoulait, dis-je, à contre-pente, et dévalait King William Street, vers où Sainte-Marie-Woolnoth comptait les heures, avec un son éteint, au coup final de 9. Là, j'aperçus quelqu'un et le hélé. Stetson, toi qui fus avec moi dans la flotte à Millet, ce cadavre que tu plantas l'année dernière dans ton jardin, a-t-il déjà levé? Va-t-il pas fleurir cette année? Ou si la gelée blanche a dérangé sa couche?
Occupe donc. Oh, he. That's friend to me. Or with his knee, he'll dig it up again.
Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère.
You